toutes et à tous, c'est Didier sur IDFM pour un nouveau rendez-vous compte avec aujourd'hui un studio à la fois comble et en même temps avec une seule invitée. Rendez-vous compte. Bonjour Nicole.
Bonjour Didier.
Nicole Gauvin-Kerimel.
Oui.
Valdoisienne.
Oui, en partie.
Comment ça en partie?
Parce que j'habite en partie le Val d'Oise, mais mon cœur est en Bretagne plutôt.
D'ailleurs avec un nom pareil, on se doute un peu. Des origines bretonnes, oui. Depuis combien de temps quand même à Saint-Leu? Ça fait un moment.
Oh, oui, ça fait plus de 35 ans.
D'accord.
Pas loin de 40 peut-être.
Ok. Ouais. Et puis bonjour aussi à Marine. Marine Gauvin, notre illustratrice freelance et écologiste, qui comme à chaque émission croque le portrait de nos invités. Portrait que vous pouvez ensuite retrouver sur la page de podcast de Rendez-vous Compte. Alors, bonjour Marine.
Bonjour.
Marine Gauvin et Nicole Gauvin-Kerimel, il y a un rapport par hasard, Nicole?
Eh bien, Marine, c'est ma fille.
Voilà, on fait ça en famille aujourd'hui. La fille va croquer discrètement la mère, enfin croquer sur son carnet de croquis, hein, j'entends bien. Nicole, lorsqu'on lit ta courte biographie, et c'est pour ça que je disais que le studio était comble aujourd'hui, on a l'impression d'avoir 3 ou 4 personnages différents. Donc bretonne d'origine, tu l'as dit, mais aussi biologiste de formation.
Oui, j'ai suivi des études de biologie à Jussieu, à Paris, donc, pour être ensuite professeur de sciences de la vie et de la terre. J'ai très peu enseigné parce que du fait du travail de mon mari, je suis partie à l'étranger.
Voilà, donc prof, quelques temps. Ensuite, animatrice pendant 20 ans, beaucoup plus long, d'ateliers de céramique et d'art plastique.
Oui, à la Maison de la Culture de Saint-Leu, qui avait l'avantage de se trouver à pied à 5 bonnes minutes de chez moi.
Voilà. Alors, la céramique, c'est pas rien quand même.
Non, mais j'ai vraiment eu... Quand je suis arrivée à Saint-Leu, j'ai tout de suite été dans des associations. Mmh. Et entre autres, à la Maison de la Culture, qui proposait justement un atelier de céramique. Je n'avais jamais touché la terre. Et puis, ça a été un peu le coup de foudre.
Un des nombreux coups de foudre.
Voilà.
Parce qu'un deuxième coup de foudre, c'est le Tai Chi Chuan.
Alors, le Tai Chi Chuan, c'est pas venu tout de suite le coup de foudre. Il a mis du temps. J'ai toujours été attirée par la Chine, la civilisation chinoise, la médecine chinoise. Et j'ai commencé par le Qigong. Parce que je me suis aperçue qu'un jour, j'étais en apnée, je respirais mal. Je me dis, mais ça va pas, ça. Donc, il y avait des cours de Qigong proposés à Saint-Leu, voilà. Et notre prof de Qigong, j'ai suivi ça pendant quelques années, est parti. Et puis, j'ai croisé une amie au forum des associations à Saint-Leu qui faisait du Tai Chi. Elle me dit, mais essaye. Donc, j'ai essayé, mais la première année, je n'étais pas sûre de continuer. Et puis, au fur et à mesure, voilà.
Alors, on peut rappeler rapidement ce que c'est que le Tai Chi, Tai Chi Chuan.
Le Tai Chi Chuan, c'est un art martial chinois, mais de défense et interne, parce qu'on ne se sert pas de ses muscles, on se sert de l'énergie qui circule dans notre corps pour justement se défendre, utiliser l'énergie de l'autre. Et,
ça, c'est et souvent la meilleure défense.
Voilà.
Trouver le point faible de l'autre et puis le détourner. Oui. Et puis aussi, autrice, déjà de 3 romans.
Oui.
Pas mal.
Oui, c'est une agréable surprise. C'est arrivé dans la vie. Je ne m'attendais pas du tout un jour à pouvoir écrire des romans.
Voilà, on en reparlera un petit peu après. Oui. Mais aussi conteuse, à un moment.
Oui, quand mes enfants étaient encore petits, dont Marine... J'ai fait partie d'une association, Compte-le, dans laquelle, oui, j'ai compté. Alors, on comptait aussi bien pour des adultes que pour des enfants. On allait dans les classes où on faisait des petits spectacles.
Oui, avec Patricia Tron et
voilà,
Axel.
Entre autres, oui, oui, oui.
Voilà, que j'ai reçu à ce micro il y a déjà un petit peu, quelques temps. Voilà. Ouais. On va reparler en détail de toute cette activité d'écriture après une première pause musicale. Alors, Nicole, tu as demandé à ce qu'on écoute Zao de Zagazan, la symphonie des éclairs. Pourquoi?
J'aime beaucoup le titre déjà, et j'aime beaucoup à la fois sa voix et puis la musique qui est très lyrique. Et puis je trouve qu'au niveau des chanteuses, la génération actuelle, il y a beaucoup de très très bonnes chanteuses.
Très belle chanson,
oui,
dont on écoute un extrait.
Oui.
fait toujours beau au-dessus des nuages. Mais moi, si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage. Je traverserais les nuages comme le fait la lumière. J'écouterais sous la pluie la symphonie des éclairs. Dès sa plus tendre enfance, elle ne savait pas parler autrement qu'en criant tout bas, pas faute d'essayer de les retenir, ses cris et ses larmes qui les faisaient tant. Il fait toujours beau au-dessus des nuages, mais moi si j'étais un oiseau, j'irais danser.
Voilà, nous sommes toujours bien sur IDFM à l'écoute de ce rendez-vous conte et nous retrouvons Nicole Gauvin-Kerimel, bretonne, valdoisienne on va dire, successivement biologiste, prof de SVT, céramiste, professeur de Tai Chi Chuan et surtout auteure, autrice de trois romans dont nous allons parler bien sûr plus précisément. Alors Nicole, un premier roman en 2016.
Oui.
Alors en lisant la quatrième de couverture, on n'est pas trop rassuré. Le titre, Une femme, un homme, un océan, aux éditions
Choum.
Okay. Donc Céline vient de baisser la garde, une bête tapie dans les méandres de son cerveau commence à se déplier, dangereuse. Alors
ça, c'est juste une partie du résumé. Hein. C'est une femme qui arrive à la retraite. Elle n'a pas d'enfant, elle n'est pas mariée, elle a juste un amant et elle se demande qu'est-ce que je vais faire de ma retraite. Et elle décide dans un premier temps de faire une croisière destination le Brésil. Et au cours de cette croisière, elle va rencontrer un homme. Voilà.
Au milieu de l'océan.
Au milieu de l'océan. Qui est barman, qui travaille sur le bateau. Un homme qui est plus jeune, c'est très important. Bien plus jeune qu'elle, je crois qu'il y a au moins 15 ans de différence.
Et bon, cette rencontre va lui permettre de retrouver, caché dans les pliures presque effacées de sa mémoire, quelque chose que je ne sais pas, je n'ai pas lu le livre. Mais donc ?
Non, cette croisière, c'est en fait, tout un sas où elle va pouvoir se libérer, se dénouer de son enfance, qui n'était pas une belle enfance, justement, les choses qu'elle a mises. Pas sous le tapis, si c'est ça, un petit peu les monstres qui vont se déplier quand on n'a rien à faire et qu'on
voilà.
On est au soleil sur une chaise longue, il y a tout un tas de choses qui reviennent.
Alors quand même, ce thème de la croisière et le thème du Brésil, on va le retrouver dans le troisième des romans dont on va parler dans quelques minutes.
IDFM, 98 FM.
Et puis un troisième roman, donc paru beaucoup plus récemment,
oui.
En 2025,
oui.
L'année dernière. On va en reparler plus précisément après une deuxième pause musicale. Alors c'est encore une très belle chanson, La Bec Katia Blue, c'est ça ?
Oui.
Little Girl ?
Little Girl de Katia La Bec, oui.
Pourquoi ?
J'aime bien choisir aussi des femmes que musicienne pour les mettre en valeur. Puis ça me parle peut-être plus, c'est du piano en plus. Donc j'ai aussi Marine, on a acheté un piano pour Marine, donc elle a beaucoup joué du piano, je m'y suis mise après. Mais le piano est un instrument de musique que j'aime beaucoup.
Ouais.
Voilà, donc.
Donc un peu féministe quand même, Nicole ?
Un petit peu quand même.
Comme il se doit aussi.
Ouais.
Voilà, on écoute un extrait de cette belle chanson. Avant de retrouver Nicole, qui nous continuera à nous parler de son troisième roman.
Sit there and count your fingers. What can you do? Old girl, you're through. Sit there. Little girl blue. sit there, count the raindrops falling on you. Each time you knew all you can ever count on.
Nous sommes toujours bien sur IDFM à l'écoute de ce rendez-vous compte où je reçois Nicole Gauvin-Kerimel. Donc je récapitule, hein, bretonne, valdoisienne, biologiste de formation, ancienne professeure de SVT, céramiste, professeure de Tai Chi Chuan, auteur de 3 romans dont nous allons continuer à parler. Alors, ce 3e roman, paru l'année dernière, quel est son titre ?
Les Pères.
Les Pères. Alors, Pères, P-E-R-E-S. Accent grave, RES.
Oui, la paternité.
Voilà, paternité. Alors, je disais tout à l'heure qu'on va retrouver le thème un peu de l'océan, de la croisière, du Brésil. Mais alors, dans une toute autre histoire. Là, il n'est pas question de chaise longue.
Non.
Alors, c'est l'histoire de pères, on va dire, de 3 pères, si je puis dire.
Oui, le père du personnage principal. Il y aura un père de maintenant, quoi, qui est tout heureux d'être père et de pouvoir s'investir dans cette paternité. Il y a le beau-père aussi, qui est important.
Monsieur.
Il va assumer ce rôle de père très bien. Voilà.
Et puis il y a le petit dernier qui vient de naître, mais qui, espérons, un jour sera père aussi. Ah. Espérons. Alors, est-ce qu'il sera père, à ton avis? Le petit dernier.
Mais Manuel.
Oui, le petit Manuel.
Je ne sais pas.
Ah, il faut écrire la suite alors.
Ah non, non.
Ah bon.
Non, des fois on me demande pourquoi tu n'écris pas la suite. Non, quand j'ai fini.
C'est fini, on tourne la page.
Oui, c'est ça.
D'accord. Alors si on revient un petit peu en détail, le personnage principal s'appelle Alain.
Oui.
Il n'a pas eu une enfance tellement marrante.
Non, les liens. Je voulais aussi parler des liens entre père-fils et Alain. Les liens qu'il a eus avec son père, surtout à l'adolescence, ce n'était pas ça du tout. Donc, c'était conflictuel. Alain a une forte personnalité et son père devait aussi avoir une forte personnalité. Donc, ça n'allait pas du tout.
Alors, il s'appelle Alain et son nom, c'est Vidal, le nom de son père aussi.
Oui.
Alors moi, j'ai fait quelques petites hypothèses que je te soumettrai après. Alors Alain, fils unique, qui refuse la vie que voulait lui imposer ce père particulièrement autoritaire auquel personne n'osait s'affronter. Et là, j'ai relevé une très très belle citation, une métaphore, par rapport au destin que son père lui traçait. Tu écris, Alain se voyait courir sur une route avec une rangée d'arbres de chaque côté de lui, une route droite, toute tracée. Une route qu'il n'avait pas choisie et il avait eu envie alors de s'arrêter, de souffler. Et un peu plus loin, tu ajoutes, hein, toujours dans la tête d'Alain, ce n'était pas une fuite, c'était un embranchement à prendre, une nouvelle direction à suivre.
Oui.
Voilà. Donc il refuse justement cette direction tracée par son père très très autoritaire.
Tout à fait.
Voilà. Et d'ailleurs de la route, Alain va en faire.
De la route, Alain va en faire puisqu'il part aux États-Unis.
Voilà, pour vivre cette vie un peu rêvée, dans laquelle il va réussir d'ailleurs.
Très bien, oui, il est intelligent, ambitieux, travailleur. Oui, il va très bien réussir sa vie professionnelle.
Voilà, puisque on comprend bien hein, que on peut réussir dans les affaires, dans sa vie professionnelle, mais ne pas être heureux.
Voilà, et avant de partir aux États-Unis, il a laissé en France son amoureuse, qu'il n'aimait plus comme avant, comme il l'avait aimée. il est parti.
Voilà. Alors justement, cette histoire de départ, de route, de voyage à travers l'océan et puis les États-Unis, en quelque sorte, moi je trouvais que c'était un peu une sorte de road movie littéraire, hein, qui va le mener successivement sur le chemin de la trahison, tu viens de le dire. Hein. Il abandonne sa compagne, sa jeune compagne, Sylvie. Mmh. Alors, il ne sait pas qu'elle est enceinte.
Alors, faut pas trop en dire sur le roman, si.
D'un autre côté, bon.
On est obligé, là, voilà, un petit peu. Ouais.
Donc, ce road movie littéraire, en fait, le conduit de la trahison, à la remise en question, puisque justement, à un moment, il comprend bien que réussir sa vie professionnelle, c'est pas forcément être heureux. Puis, enfin, il devient humain, si je puis dire.
Oui.
Et grâce à quoi ? Alors, sans trop...
On est obligé, là, on est obligé, oui. C'est-à-dire, aux États-Unis, déjà, il avait une compagne qui, elle, désirait un enfant. Et puis, il lui a dit, moi, les enfants, c'est pas mon truc. Mmh. Voilà. Elle l'a quitté. Et donc, il a jamais été quitté. Et donc, là, ça lui avait déjà porté un coup à l'ego. Voilà. À l'ego, et puis plus que ça. Mmh. Et puis, il va revenir, ce qu'il n'avait pas prévu, en France, parce que la société que son père dirigeait, son père est mort, et la société donc, qui était de famille, elle ne va pas bien. Et les gens le connaissent, et ils l'appellent, lui disent, écoute, si tu pouvais venir voir, et il va se faire avoir, entre guillemets.
Oui.
Voilà. Et c'est-à-dire... il va redresser l'entreprise familiale, donc il revient en France.
Voilà, ce à quoi il avait voulu échapper finalement se réalise, voilà. Et il va assumer l'héritage du père.
Voilà, tout à fait.
Voilà. Alors à propos, je parlais de trahison par rapport à cette jeune compagne Sylvie, qu'il a quittée sans savoir qu'elle était enceinte.
Oui, tout à fait. Et
Sylvie va écrire des lettres. Mmh. Qu'on voit bien dans le roman. Et là aussi, elle emploie une métaphore que j'ai beaucoup appréciée. Quand elle s'adresse à cet Alain qui l'a abandonnée, elle écrit, elle dit « Je peux te dire merci aujourd'hui de m'avoir laissé au port, car il a fallu que j'apprenne à naviguer par moi-même. J'ai aimé cela et je suis devenu voile de grand large.
Mmh. »
Ça, c'est beau.
Oui.
Donc la trahison finalement peut permettre aux gens aussi de devenir eux-mêmes.
Oui, oui.
Hein, c'est un peu difficile, ouais. Alors quand même dans ce roman qui s'appelle Les Pères, j'en discutais un petit peu avec toi avant le début de l'émission, la symbolique des prénoms m'a vraiment interpellée.
Alors moi j'ai pas vu la symbolique, mais bon.
Voilà. Alors ouais, parce que il y a Alain. Oui. On va dire. Hein. Et puis, le fils qu'il ne connaissait pas s'appelle Gabriel. Non, alors Gabriel, c'est pas n'importe quel nom, hein, puisque quand on voit dans le Nouveau Testament, c'est celui qui annonce à Marie qu'elle va être enceinte et qu'elle aura un fils. C'est l'Annonciation. Alors, dans le roman, c'est un peu l'inverse. C'est-à-dire que quand ce fils, Gabriel, va partir à la recherche de son père, hein, donc, qui sait qu'il est devenu chef d'entreprise
sur Paris.
Ouais. Il va y avoir cette scène un peu douloureuse dans les chapitres 13 à 15, où le jeune Gabriel va dans l'entreprise de Alain, son père, pour essayer de lui dire « je suis ton fils ».
Voilà.
Et ça ne va pas pouvoir se faire.
Non, il ne va pas pouvoir croiser son père, parce que c'est un homme... pressé, peu disposé à écouter les autres.
Voilà. Et donc, cet échec, c'est quand même l'inverse de l'annonciation biblique, puisque là, le fils ne peut pas annoncer à son père qu'il est son fils. Quoi. Ouais. Et autre chose, alors, ça m'a un petit peu interpellé, quand le jeune Gabriel se rend dans l'entreprise de son père et puis qu'il s'installe pour attendre, l'hôtesse d'accueil s'appelle Magali. Alors Magali, c'est une variante de Marie-Madeleine, autre figure biblique, et qui en quelque sorte assiste au chemin de croix de ce Gabriel qui échoue à parler à son père Alain. Non ?
Je ne sais pas, moi je n'ai pas beaucoup de références bibliques, donc honnêtement...
Tu en veux d'autres ?
Oui, vas-y.
Alors, le beau-père de Gabriel, c'est-à-dire cet homme qui, après la naissance de ce fils, va vivre avec la mère de Gabriel, avec Sylvie, il s'appelle Marc. Et Marc, c'est l'un des quatre évangélistes.
Ouais.
Et puis, mais j'ai trouvé aussi, et ce même Gabriel, une fois devenu adolescent, il va, aux courtes circonstances qu'on découvrira en lisant le roman, il va tomber amoureux d'une jeune fille qui s'appelle, qui se prénomme Marie.
Marie-Louise, oui.
Oui, oui. Puis, voilà.
C'est des prénoms assez, Marie-Louise, assez courants au Brésil. Mmh. Et c'est vrai que Alain, c'est assez commun aussi. Mmh. Gabriel, pour les générations suivantes, c'est un prénom aussi courant, donc c'est vrai que pour moi il y avait aucun rapport, quoi. Je veux dire aucune référence biblique. Hein. C'est pas des prénoms choisis pour ça.
D'accord. Oui, oui. Et puis peut-être une dernière, c'est quand même un des garçons, un des adolescents qui s'appelle Clément, va lui aussi rencontrer une jeune fille qui justement elle s'appelle Marie. Il va tomber follement amoureux.
Ah ouais.
Alors et puis allez un petit dernier. Le même Gabriel qui est donc le fils de cet Alain, qui a fini par savoir qu'il était père et puis a rencontré son fils.
Oui, à la mort, il le sait, à la mort de sa mère.
Voilà.
Il voit une photo dans la maison de sa mère, une photo d'elle avec un jeune homme. Et il se dit, mais qui c'est, quoi ?
Qui lui ressemble quand même pas mal.
Voilà.
Et alors, ce même Gabriel, donc, qui a retrouvé son père, si je puis dire, comment va-t-il appeler son fils ? Le fils, le petit dernier qui va naître.
Manuelo.
Alors, Manuel, ouais. Manuel. Et bien, là aussi, alors, c'est le nom de celui qui, dans l'Ancien Testament, ça veut dire dans l'Ancien Testament, ça désigne le Messie promis au peuple juif. C'est pour ça que, alors, évidemment, moi qui suis un peu littéraire, on va dire, l'étude des prénoms dans les œuvres littéraires, ça donne quand même des choses assez étonnantes, peut-être.
Ah oui, mais là, Emmanuel Lowe, donc, parce que c'est un petit garçon franco-brésilien qui naît au Brésil. Manuel Lowe, c'est un prénom très commun au Brésil.
Voilà.
Voilà.
Mais il y en a d'autres. Et donc, peut-être inconsciemment, pas d'inconscient, ce roman n'est pas une parabole biblique.
Ah, pas du tout.
D'accord.
Pas du tout.
Ce roman s'appelle Les Pères, mais le rôle des mères et des femmes est central.
Oui, oui, oui.
Ouais.
Oui, quand même.
Oui.
Sylvie, Valérie, joue un rôle important.
Ouais. La grand-mère.
Et Maria Luisa.
Oui, la grand-mère.
Léa. Aussi. Léa. Ouais.
Alors Léa, c'est la grand-mère, donc la mère d'Alain et la grand-mère de Gabriel. Et là aussi, quand elle apprend que son fils a un fils, elle est pourtant incapable de lui annoncer la bonne nouvelle. Bonne nouvelle.
Oui, parce qu'il n'est pas facile à aborder.
Non.
Et Sylvie lui a dit, elle voulait que ça soit elle qui lui annonce. Quoi, Sylvie.
Voilà.
Parce que il y a dans cette volonté quelque chose de l'ordre de la vengeance. Un petit peu.
Sans les femmes, il n'y a pas de père.
Ah ben oui.
Alors pourquoi avoir choisi de raconter une histoire centrée plutôt sur les pères que sur les mères en fait ?
Alors, quand je l'ai écrit, je ne me suis pas trop posé la question. Il y avait Alain qui me plaisait comme personnalité. Mais c'est après, je me suis dit, on ne parle pas beaucoup de la paternité. Qu'est-ce que c'est qu'être père, les liens. Et puis, je trouve que la vision de la paternité a beaucoup évolué.
Alors, il y a d'ailleurs une très, très belle scène, un petit peu quand tous ces personnages sont réunis autour du petit Manuel qui vient de naître, Alain. Prend le petit dans ses bras et peut-être pour la première fois, il sait ce que c'est qu'être père.
Voilà.
Très belle scène.
Oui.
Vers la fin.
Oui, parce que quand on fait connaissance d'un jeune homme qui a, je sais plus de 20 ans.
Oui, largement. On le prend pas dans ses bras.
Bah
quand
non, c'est pas facile de créer, de faire le lien, quoi, le lien affectif. Tandis qu'avec un tout petit...
Surtout qu'il arrive au Brésil au moment où le petit Manuel va naître.
Va naître, oui.
Alors, si Hélène, notre chroniqueuse psychanalyste, Hélène Sou, était là, elle nous dirait peut-être que cet Alain Vidal, c'est son nom, fils d'un père auquel personne n'osait s'affronter, ce jeune Alain Vidal avait un nom qui semblait incomplet, un peu tronqué, inachevé, et qu'à la fin du récit, cet Alain Vidal, en fait, connaît enfin à vivre sa véritable vie d'Alain. Donc le Alain Vidal, finalement, va pouvoir avoir un nom complet et qu'il va vivre sa vie d'Alain. Une sorte de... Ouais.
Oui, bah,
de chiasme avec les prénoms.
Il gagne en humanité, en complétude.
En complétude.
Voilà.
Maintenant, Alain Vidal, c'est la vie d'Alain.
Voilà.
Est-ce que tu as voulu faire passer un message? Oui, un peu raconter. Oui.
Un message particulier? Non.
Alors, tu sais bien qu'en ce moment, on a un problème en France, c'est qu'on ne fait plus d'enfants.
Ah oui.
Alors, c'est un appel au père potentiel.
Oui, je trouve que c'est important, un père. Moi, j'ai eu un père très présent, autoritaire, mais présent. Et voilà, c'est une figure très importante, aussi bien pour un garçon que pour une fille. Le père, je trouve que...
Alors, Nicole, on en parlait un petit peu avant l'émission. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire? Un déclic, je crois.
Alors, un déclic, ben, on en parlait un petit peu aussi avec Marine. Elle se souvient bien qu'à une époque, je... faisait partie de l'association de conteuses de Saint-Leu, là.
Conte-le.
Et c'est vrai qu'on nous avait appris à réécrire un petit peu les contes. Et je te disais aussi en aparté que moi, l'écriture, quand j'étais collège, lycée, c'était pas mon truc. J'adorais lire, mais alors écrire les rédactions, c'était au dernier moment, la veille, que je les faisais, parce que... Voilà. Donc, c'est venu petit à petit et... Il y a plus de 20 ans, j'ai fait un atelier d'écriture à la médiathèque d'Hermont. C'était sur les souvenirs, avec la fameuse phrase de Pérec, « Je me souviens ». Et c'est vrai que ça m'avait bien plu et je trouvais que c'était facile quand on fait appel à ses souvenirs, ses sentiments, ses émotions. Je me dis « Oh, bah oui, c'est... » Voilà. Ça m'a plu et j'ai continué. J'ai l'animatrice, la façon dont elle dirigeait ses ateliers m'avait bien plu. Et j'ai continué avec elle. Et puis j'ai écrit, des fois c'était quelques phrases, un paragraphe, une page. Voilà, ça s'est allongé au fur et à mesure. Et j'avais participé aussi au concours de nouvelles d'Annie Ernaux.
Organisé par la ville de Saint-Leu-la-Forêt il y a à peu près 25 ans.
Voilà, et dans ce cadre-là, j'avais écrit quelques nouvelles qui n'ont pas été primées, mais je trouve que c'est très satisfaisant qu'on arrive à écrire une histoire avec ses propres mots, émotions. Voilà.
Ok. Alors justement, notre émission se termine, ça passe très vite. D'autres projets d'écriture, là, en ce moment?
Ah oui, j'ai deux manuscrits qui sont prêts.
D'accord.
Donc, il faut juste que je les rebalaye pour voir faute d'orthographe, ponctuation et tout, avant de les envoyer. Et je suis en train d'écrire. Alors là, ça sera plus sur la Bretagne.
Ah.
Voilà. Pas vraiment un roman, mais des petites scènes.
Alors, tu parlais d'orthographe. Est-ce que tu écris à la main, donc, et puis tu recopies à l'ordinateur? Enfin, tu tapes alors, ensuite?
Alors, le premier jet, c'est feuille de papier, crayon à papier. Et puis, je laisse aller, je ne fais pas attention si c'est correct, pas correct. C'est vraiment les idées, comme ça vient. Et après, donc, j'ai une première retouche manuelle. Et après, oui, l'ordinateur.
Voilà, donc, je voulais absolument signaler que tu as signé ton roman à la librairie indépendante de Saint-Leu qui s'appelle « À la page 2001 ». C'était au mois de décembre, une librairie indépendante qui propose très régulièrement des rencontres avec des auteurs et dont il faut saluer et soutenir l'importance culturelle qu'elle occupe dans la ville, grâce notamment à l'association des Amis de la librairie que nous recevrons prochainement et on mettra les références sur la page de notre podcast. Voilà. Bon, voilà. Merci Nicole.
Merci et au revoir à tous.
Voilà. Ainsi se termine notre rendez-vous conte consacré cette semaine à Nicole Gauvin-Kerimel, qui nous a parlé de son travail de romancière. Un podcast à retrouver sur le site d'IDFM, où vous retrouverez également les croquis que Marine Gauvin, réalise en direct de nos invités. Et quant à moi, Didier, je donne rendez-vous à tous les auditeurs la semaine prochaine, même heure, même adresse, pour un nouveau numéro de rendez-vous conte sur IDFM, évidemment. Et en attendant, je vous retrouve aussi dimanche matin dans la matinale de midi pour ma chronique Nec plus Ultra, consacrée aux expressions issues du latin et de la mythologie grecque. À bientôt.